Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, l'actualité de la culture avec celles et ceux qui la font, c'est tous les jours, tôt à la radio, dans les petits matins de France Culture, ou quand vous voulez, en passant par l'écoute en différé sur notre site ou l'abonnement au podcast. Tous les lundis, c'est l'actualité des livres et aujourd'hui, mon invité est une habituée du réveil culturel, Oriane Jeancourt et Galine Yanni, qui publie dans la collection Le Courage de Grasset, La Femme écrevisse. S'il fallait trouver à ce roman un sous-titre encore plus accrocheur, on opterait pour La Face cachée de Rembrandt.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Bonjour Oriane Jeancourt, ravie de vous retrouver, bronzée, reposée. Quand je dis que vous êtes une habituée du réveil culturel, c'est parce que depuis quelques années, vous êtes le partenaire. En tant que rédactrice en chef du magazine Transfuge, une fois par mois, vous venez nous donner vos coups de cœur littéraires. Mais là, on va commencer par parler de votre livre, parce que vous faites partie de la rentrée littéraire avec La Femme écrevisse. Ainsi donc, Oriane, tout va bien, hein?
Bah oui. Mais bien sûr, je suis ravie de vous voir, vous aussi, vous avez l'air en pleine forme.
Donc, 350 ans après la mort du grand maître du siècle d'or néerlandais, dans une foisonnante fiction où le thème des métamorphoses est au centre, vous déclinez en trois parties, trois histoires, trois époques différentes, quelque chose qui tourne autour de Rembrandt, et vous dévoilez d'ailleurs le côté sombre du puissant maître.
Oui, bon, évidemment, c'était pas le premier objectif de ce roman que de tirer sur Rembrandt, mais c'est vrai que partant de cette gravure, La Femme écrevisse, donc qui donne le titre du livre et qui va être un peu le fil rouge de tout le roman, qui va traverser les époques, révéler un peu les personnages. Eh bien, cette femme écrevisse, créature mi-humaine, mi-animale, cette femme écrevisse et son mystère, son inquiétante étrangeté, va en premier lieu, c'est vrai, révéler la nature assez assez cruelle de Rembrandt, puisque la femme écrevisse va révéler cette passion amoureuse qu'il a eue à la fin de sa vie avec Margot étant celle qui s'occupait de son fils, la gouvernante de son fils, et puis Margot étant aussi sa maîtresse, et Margot étant finalement la femme qu'il a envoyée à l'asile et qu'il a condamnée à une disparition atroce.
Et vous le balancer, en quelque sorte. D'où ma première réflexion, c'est vraiment un roman d'époque, même si on traverse plusieurs époques, c'est-à-dire du XVIIe siècle jusqu'au XXIe siècle, en passant d'Amsterdam à Berlin et de Berlin à Paris, on a l'impression, Oriane Jeancourt, Galine Yanni, que c'est aussi une manière de répondre à l'époque d'aujourd'hui.
Oui, sans doute. De toute façon, je crois que c'est assez difficile de sortir de son époque, hein. Même quand on le cherche vraiment, l'époque nous rattrape inévitablement. Oui, sans doute, en effet, que faire vivre comme ça ces anonymes, ces femmes anonymes qui, jusqu'à présent, n'avaient pas vraiment de place dans l'histoire, que ce soit l'histoire politique ou l'histoire de l'art, comme maintenant, c'est assez récent. Et c'est vrai que Margot était jusqu'à maintenant, dans les livres d'histoire de l'art, le modèle, un modèle intéressant. Et elle n'était finalement interrogée que dans la mesure où elle changeait un peu par son rôle de modèle, la peinture de Rembrandt. Elle avait aussi assez mauvaise réputation, cette Margot, puisque on considérait qu'elle avait harcelé ce pauvre Rembrandt qui était ruiné avec des demandes en mariage, alors qu'elle aurait mieux fait de rester à sa place. Et finalement, le fait qu'elle ait été comme ça envoyée au Spinuis, c'est-à-dire à l'asile, mais un asile de femmes, où on envoyait à l'époque non seulement les femmes réellement malades, folles, mais aussi les prostituées, les mendiantes, enfin toutes ces femmes marginales qui n'avaient pas de place dans la société d'Amsterdam du XVIIe siècle, eh bien ce fait-là n'avait finalement pas réellement interpellé les historiens jusqu'à maintenant. Et c'est vrai que...
Alors qu'elle a été plus que l'inspiratrice du peintre de Rembrandt. C'est ce que vous laissez entendre dans votre livre, Oriane Jeancourt.
C'est toute la question, et c'est bien pour ça que c'est un roman. Moi, j'aime beaucoup les zones de mystère comme ça qui peuvent parcourir l'histoire. Et c'est vrai qu'on ne sait pas vraiment, le XVIIe siècle, c'est loin. Rembrandt a été, Dieu sait qu'on a tant écrit sur Rembrandt, mais finalement on n'a jamais vraiment su beaucoup de choses sur sa vie privée. Il y a beaucoup de choses qui ont été cachées. On ne sait pas véritablement ce qui s'est passé avec cette femme. La seule chose qu'on sait, c'est que ça s'est donc mal fini et qu'elle est morte à l'asile. Et on ne sait pas quel rôle elle a joué dans sa peinture. J'ai imaginé qu'elle avait joué un rôle fondamental. Et en effet, parce que à ce moment-là, dans la peinture de Rembrandt, il y a un tournant. Il y a un tournant dans ses gravures, puisque moi je m'intéresse particulièrement aux gravures, c'est-à-dire que ce sont des gravures qui, à ce moment-là, parce qu'il y a plus d'encre, perdent un peu leur réalisme extrêmement fort, et se sornent de ce mystère, de cette part d'ombre qui va évidemment faire la postérité de Rembrandt. Mais il y a aussi un tournant dans sa peinture, puisque on voit comme dans ses choix, il va beaucoup plus peindre le peuple, il va beaucoup plus peindre des personnages étranges. Donc, je peux le dire, il ne peindra pas de femme écrevisse. La femme écrevisse.
Ça, ça appartient à la fiction.
Et voilà, est une créature inventée. Et il fallait qu'elle soit inventée pour qu'elle trouble réellement le lecteur, comme moi-même, elle m'a troublée pendant l'écriture. Mais ce qui est vrai, c'est qu'à ce moment-là, donc dans cette dernière partie de sa vie créative, il va de plus en plus peindre des animaux, des créatures étranges, des visages qu'il voit sur le port d'Amsterdam, des femmes qui sont vieillissantes, qui sont abîmées par la vie. Enfin, il va essayer de nous dire autre chose que ce qu'il a essayé de dire dans la première partie de sa vie de peintre et d'homme, c'est-à-dire l'ambition, c'est-à-dire la grandeur de cet Amsterdam du XVIIe siècle.
La femme écrevisse, donc, c'est le titre de votre ouvrage, Oriane Jeancourt Galignani. C'est aussi cette gravure du maître. Là, on est dans la fiction, puisqu'il n'y a pas eu ni la femme écrevisse, ni toutes les variations de la femme écrevisse. Mais il y a donc ce tableau qui va traverser les siècles, les villes. On commence d'abord à Amsterdam. Alors, c'est vraiment Amsterdam en plein boom, que vous décrivez très, très bien. C'est le capitalisme, la ville va très bien, tout le monde s'affaire. Et il y a cette Margot, qui a déjà 40 ans, quand elle se présente au domicile du maître. On ne sait toujours pas que c'est Rembrandt, et elle va se faire recruter tout de suite. Je vous propose d'écouter un extrait du roman de Oriane Jeancourt Galignani, lu par Marie Constant.
Le peintre fait signe à Margot de monter s'installer. Pourquoi elle et pas une autre? Parce qu'elle est la première à se présenter. Parce qu'elle lui rappelle un garçon qu'il l'aimait bien à l'atelier, rond et rigolard. Parce qu'elle sait cuisiner. Parce qu'elle a du ventre et les cheveux fins. Parce que se creusent le long de ses lèvres de longues rides qui assurent qu'elle survivra à tout. Parce qu'il aime son haut front mat et le moucheté fauve de ses pupilles, parce que si elle a connu la mort dans son lit, elle n'est pas étrangère à sa douleur, parce que le petit pleure même lorsqu'il n'a plus faim, parce qu'il n'aime pas les gestes pressés agacés de la bonne, parce qu'il paierait n'importe quelle main douce et calme pour faire oublier à son fils que sa mère vient de mourir.
Dans cet extrait, déjà qu'une passion va naître entre cette gouvernante et le maître.
Oui, absolument. C'est une passion amoureuse, une passion charnelle, et ça, j'ai voulu le faire vivre. C'est assez évident, d'ailleurs, quand on voit les tableaux et la manière dont il la peinte, et dans les gravures, et dans la peinture. Et ce que je trouvais beau, c'est que c'est une passion entre deux, un homme et une femme qui ont plus de 40 ans. Alors, plus de 40 ans, bon... D'autant plus à l'époque, bien sûr. Ça signifiait quelque chose. Ce sont des gens qui pensent que leur vie est terminée, et c'est à ce moment-là que cette passion étrange, cette passion secrète, puisque il est hors de question de vivre ça au grand jour, va naître entre les deux cette passion relativement bestiale aussi. Et puis finalement cette passion qui va renaître dans une forme de dialogue artistique. C'est ça aussi que je voulais montrer, comment est-ce que la passion de l'art et la passion charnelle se mêlent et se ressemblent d'une certaine manière.
Et l'autre force de votre livre, Oriane Jeancourt Galignani, c'est que effectivement il y a cette gravure, il y a cette femme écrevisse. D'ailleurs, est-ce une écrevisse qui se transforme en femme ou une femme qui se métamorphose en écrevisse? Toute la question est là. Elle n'est pas seulement regardée par les protagonistes de votre roman au fil des siècles et des trois histoires et des trois époques. Elle-même, cette toile, a l'impression de les voir et d'avoir une influence sur ces personnages. D'abord Margot, au début. Et puis ensuite, on va passer à Berlin, le Berlin de l'entre-deux-guerres, avec Ferdinand. Et puis la partie la plus contemporaine, celle de Paris d'aujourd'hui, avec Grégoire. Et tous ces personnages qui vont hériter, bien sûr, parce que ça, ce tableau reste au sein d'une même famille, cette femme écrevisse qui va voyager, elle va avoir de l'influence sur ces gens-là.
Oui, parce que ça, c'est quelque chose que je crois profondément, c'est que quand on aime profondément une œuvre, elle peut nous habiter et elle peut d'une certaine manière nous transformer. Ou alors nous annoncer une part de ce que nous allons vivre. Évidemment que j'ai pensé au portrait de Dorian Gray quand j'ai écrit ce livre, mais pas seulement. Je crois que et c'est le cas de ces trois personnages, que ce soit Margot qui peu à peu devient elle-même une passionnée d'art et une artiste, que ce soit Ferdinand qui est acteur et qui lui véritablement incorpore l'art, ou que ce soit Grégoire qui est un jeune homme de 20 ans, on ne sait pas très bien ce qu'il va devenir, mais ce qui est sûr c'est que il nourrit cette passion pour l'art. Eh bien, pour eux l'art est si important que il les détermine. Et je crois que cette femme écrevisse va leur annoncer à chacun ce qu'ils vont devenir, le genre de métamorphose qu'ils vont subir, le genre de crise qu'ils vont traverser.
Et donc de drame aussi. Et c'est aussi une manière de parler de trois époques différentes.
Oui, alors parce que je voulais comme ça, je trouve ça très intéressant de voir comment est-ce qu'un tableau peut être reçu, peut être compris, peut être saisi à différentes époques, et prendre Rembrandt qui est peut-être le peintre le plus connu au monde, c'était d'autant plus intéressant de voir ça. Et le scandale du XVIIe siècle avec la femme écrevisse devient, dans le Berlin des années 20, une sorte de curiosité un peu trouble, mais en tout cas qui va attirer ce Berlin des années 20, notamment avec Ferdinand, ce cinéma des années 20. On voit comme elle va faire écho avec cette Allemagne trouble, cette Allemagne expressionniste. Et puis ensuite, à notre époque, on voit comme elle est au Louvre, elle est devenue institutionnelle. Et finalement, une grande partie des gens ne ressentent plus le scandale de cette femme animale qui danse. Seuls quelques esprits sensibles, comme ceux de Grégoire, seule une grande jeunesse comme la sienne, peut voir dans cette créature quelque chose d'insoutenable, quelque chose d'extrêmement profond qui nous parle du lien entre la folie et l'art.
Culture, le réveil culturel, Tofik Hakem.
Dans Amsterdam pluvieux, où le jour est en berne, quel est donc ce fumeur rêveur et nonchalant qui regarde par les vitraux d'une taverne le canal où se mirent les arbres tremblants? Rembrandt. Un obscur génie qui se nourrit de chimères, de visions d'ombre, de songes hallucinants. Prométhée chu dans les marais de la misère pour avoir volé le ciel en peignant. Rembrandt.
C'est ainsi que Eddy de Fac, grand auteur, compositeur, interprète belge, prononce le nom de Rembrandt. C'était en 1966. Si ça se trouve, il se rapproche le plus d'ailleurs de la prononciation originale. Auriane Jeancourt, Galignani, vous qui avez consacré donc ce livre, votre dernier roman, La femme écrevisse, à Rembrandt. D'ailleurs, on a beaucoup parlé de Rembrandt cet été, puisque une de ses œuvres a été, 350 ans après sa mort d'ailleurs, a été vendue. Vous savez, c'est un de ses trois autoportraits qui appartenaient toujours à des particuliers. C'est l'autoportrait coiffé d'une collerette et d'un chapeau noir qui a été réalisé dans sa jeunesse, sans doute pour séduire la bourgeoisie d'Amsterdam. La maison Sotheby's l'a donc vendu à 16 millions d'euros en juillet. Voilà, le précédent record pour un autoportrait de Rembrandt, c'était en 2003, pour une somme de 6,9 millions de livres. Alors, je dois faire l'amour.
Mais non, mais c'est évidemment toujours, je ne vais pas dire amusant, mais c'est l'ironie de l'histoire, sachant que lui-même est passé par une telle époque de ruines et de pauvreté à la fin de sa vie.
Alors, vous ne nous dites pas ce que vous pensez de Rembrandt, hein ? C'est-à-dire, l'homme est présent et son art, Auriane Jeancourt Galignani.
Je ne dis pas ce que je pense de l'homme, ouais. Je ne le juge pas, non, mais je ne vais pas juger l'homme, je pense que de toute façon...
Non, c'est le contraire, je disais, vous jugez l'homme, mais pas l'artiste.
Ah non, mais c'est assez acquis, j'ai passé plusieurs années à écrire un livre sur lui, évidemment que j'ai une stupéfaction qui sans cesse se nourrit à chacun de ses tableaux.
Est-ce que la littérature, c'est d'inventer une œuvre à Rembrandt, cette femme écrevisse?
Oui, d'ailleurs c'est une gravure, je ne sais pas si j'aurais osé inventer un tableau. Parce que des gravures, il en a fait énormément. Et je les trouve d'une certaine manière plus accessibles. Vous savez, c'est très compliqué, Rembrandt, Picasso, de parler de leurs tableaux. Qu'est-ce qu'on peut dire qui n'a pas déjà été dit? Alors que l'art gravé est si foisonnant, si riche, si quotidien, puisqu'il parle, encore une fois, il grave assez rapidement des gens qu'il croise dans la rue, il grave ses amis, il grave ses maîtresses, il grave son fils énormément. Il grave très vite, et donc il y a quelque chose comme ça de rapide, d'une forme de chronique, de nouvelle, on pourrait dire, pour un écrivain, qui le rend beaucoup plus humain, et qui, à mon avis, nous raconte beaucoup plus sur l'homme aussi.
C'est édité chez Grasset, dans la collection Le Courage, la femme écrevisse. Auriane Jeancourt Galignani, vous êtes aussi, et on le sait, rédactrice en chef du mensuel Transfuge. Alors, vos coups de cœur littéraires, cette rentrée littéraire, qu'on attendait avec impatience.
Oui, et comme chaque rentrée littéraire, au début on est très enthousiaste, ensuite on est un peu déçu, et puis on retrouve l'enthousiasme ensuite. Et voilà, donc là je
trouve... Vos trois coups de cœur, ouais.
Alors, mon premier coup de cœur, c'est un Roumain qui s'appelle Catalin Mihuleac, hein, pardon si je le prononce mal, mais qui a écrit un livre fabuleux qui s'appelle Les Oxenberg et les Bernstein aux éditions Noir sur Blanc. C'est fabuleux parce que au début on est dans la grande tradition satirique Mitteleuropa, vous voyez, on rit beaucoup. C'est une Roumaine qui rencontre la famille Bernstein & Co, on est à notre époque, et elle va épouser un fils Bernstein. La famille Bernstein a fait fortune à New York parce que elle vend du vintage, tout est second hand, et évidemment avec l'histoire qui va avec. Donc, c'est-à-dire qu'elle va vendre une casquette soviétique en racontant que ça appartenait à un grand soldat, et les Américains achètent ça très cher parce qu'ils sont très friands de cette vieille histoire soviétique. Pareil avec l'histoire nazie. Enfin, ils vont... Tout se recèle. Voilà, ils ont des énormes entrepôts en Roumanie où on retrouve la chaussette de Marilyn Monroe, le parapluie... de Ceausescu, tout y est dit, et ces reliques deviennent voilà vraiment des objets extrêmement chers. Et ces pages-là, évidemment, sont très très drôles parce qu'on voit que tout peut être vendu, que l'histoire ne signifie plus rien et qu'elle n'est finalement qu'une valeur ajoutée aux objets qui circulent sur Internet. Et puis peu à peu, ça va devenir plus grave parce que souvent la satire comme ça du centre européen tourne vers une forme de mélancolie, et on va découvrir l'histoire des Oxenberg, qui, eux, ont vécu une tragédie pendant la guerre que je ne vous révélerai pas.
Les Oxenberg et les Bernstein de Catalin Mihuleac, c'est chez Noir sur Blanc. Deuxième coup de cœur d'Auriane Jeancourt.
Alors, je sais que nous avons en commun, Toufi, que nous aimons beaucoup les jeunes auteurs, et puis surtout pendant les rentrées. Après tout, une rentrée littéraire, c'est tout de même fait pour ça. Alors là, je voudrais vous parler de Grégory Le Floch, qui écrit un roman, son second roman, je trouve qu'il est peut-être le plus beau titre de la rentrée. Ça s'intitule « De parcourir le monde et d'y rôder ».
Alors, Christian Bourgois.
Alors, Grégory Le Floch avait déjà signé un premier roman tout à fait surprenant, qui est très bernardien. Et alors là, il continue, il se met un peu sous l'influence de Kafka et Bernard, puisque nous sommes dans un roman absurde qui assume totalement son absurdité. C'est un jeune homme, un narrateur, qui ramasse une chose dans la rue. Mais on ne sait pas ce que c'est. Et pendant tout le livre, il va se promener entre Vienne et Paris avec sa chose. Il va montrer sa chose à différentes personnes, et les différentes personnes vont essayer d'interpréter ce qu'est cette chose. Il y aura des choses très très drôles. Par exemple, il va photographier sa chose, il va la mettre sur Internet, et tous les commentaires vont dire, mais bien sûr, ça c'est un résidu de Franz Liszt, ça c'est... Enfin, il y a mille et une interprétations. Donc, vous l'avez compris, c'est absurde et c'est drôle, et c'est très fin, et je trouve, c'est vraiment une voix totalement neuve que celle de Grégory Le Floch.
De parcourir le monde et d'y rôder de Grégory Le Floch chez Christian Bourgois. Et puis enfin, troisième coup de cœur littéraire d'Oriane Jeancourt, et peut-être même le premier puisqu'il fait la couverture du dernier numéro de Transfuge.
Oui, c'est une couverture qui a fait l'unanimité de notre rédaction. Elle s'appelle Yagyazi et elle signe Sublime Royaume.
Chez Calman Lévy.
Voilà. C'est une auteure qui a 31 ans, qui a déjà connu un grand succès aux États-Unis qui s'appelle No Home. Et là, ce sublime royaume, eh bien, c'est très fin parce que elle raconte un peu de son histoire et pas vraiment, c'est-à-dire c'est une famille d'origine ghanéenne qui arrive aux États-Unis avec évidemment de grands espoirs, de grandes ambitions. La mère est aide ménagère et le père ne sait pas très bien ce qu'il va faire. Le sublime royaume, c'est les États-Unis, qui se révélera et ne se révélera pas ce sublime royaume. La mère va sombrer dans une dépression, le père va s'enfuir, mais la fille va faire Harvard et devenir une grande scientifique. Et elle, c'est à ce moment-là qu'on la découvre et c'est à ce moment-là qu'elle nous raconte, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que l'Amérique a été un sublime royaume ou est-ce que l'Amérique a été la tragédie?
Et en plus, d'actualité.
On ne peut plus, je crois.
Le réveil culturel. Tous les matins de la semaine, tôt à la radio ou quand on veut sur franceculture.fr.
Et on peut retrouver bien sûr les recommandations d'Oriane Jeancourt Galignani, mon invité ce matin sur franceculture.fr à la page de l'émission Le Réveil Culturel, émission préparée avec Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard avec ce matin à la technique Manon Houssin. Merci Oriane Jeancourt d'être passée ce matin et on se donne rendez-vous le mois prochain comme d'habitude.
Avec plaisir, merci à vous.
Bonne matinée sur France Culture et à demain.